Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons et nous terminons cette série concernant vieillir, des témoignages authentiques qui vont aider beaucoup de ceux qui ont un grand âge et qui ont compris que ces témoignages authentiques sont sérieux pour nous aider. C'est l'étude numéro 6, poursuivre le chemin. En effet, quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi, et là tu verras que seul ce qui t'apporte de la peine t'apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, regarde à nouveau dans ton cœur et tu verras que tu pleures ce qui te rendait heureux. Chers amis, il ne fait aucun doute que la cruelle réalité de la mort d'un proche peut être difficile à supporter pour ceux qui restent. Et ils se demandent souvent pourquoi cela m'est-il arrivé. Il nous arrive de penser à la peine de ceux que nous aimons après notre mort. Nous pouvons alors nous rappeler les paroles du psalmiste, paroles d'espérance pour tous ceux qui ont besoin de réconfort. Oui, il y en a qui ont besoin d'être réconfortés. Alors le psaume 34, verset 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Les moments passés auprès de ceux qui avaient perdu un conjoint après 40, 50 ou même parfois 60 ans de mariage sont parmi les plus bouleversants. La plupart de ces couples avaient une foi profonde en Dieu. Ils s'étaient engagés l'un envers l'autre pour la vie, un seul homme pour une seule femme, conscient qu'un tel engagement consistait le seul vrai fondement d'un mariage sain et stable. Les vies de ces couples n'avaient pas été très faciles. Beaucoup avaient connu des épreuves et de grandes souffrances. Certaines avaient survécu à la Grande Dépression, d'autres s'étaient battues au cours de l'une ou même de plusieurs des nombreuses guerres du XXe siècle. Quand on a traversé ensemble de telles épreuves, il n'est pas étonnant que celui ou celle qui reste soit profondément affecté par la mort de son conjoint. Ce que j'ai remarqué à chaque fois, c'est une étonnante aptitude à accepter la situation. C'est aussi ce qui a frappé Thelma. Voici ce que Thelma dit de ses grands-parents, de Jim et de Janet. Excusez-moi. À la fin de mes études universitaires, dit Thelma, j'ai pu consacrer du temps à grand-maman, qui était devenue totalement dépendante. La façon dont grand-papa s'occupait d'elle, attentif à chacun de ses besoins, m'a profondément marqué. Il a même dormi dans un lit à côté d'elle jusqu'à la fin. Même quand les nuits étaient mauvaises, il disait « Je me suis engagé il y a 65 ans, eh bien ce n'est pas maintenant que je vais abandonner. » Et lorsque finalement grand-maman mourut, le grand-père était à son chevet. et je n'oublierai jamais la prière toute simple que j'ai entendue alors de sa bouche. Il a dit « Merci mon Dieu, oui merci, merci, pour ces 60 ans de vie commune. Merci et merci. » Chers amis, qu'est-ce qui peut nous apporter une telle paix à la mort d'un conjoint? Je ne sais pas moi-même si je réagirais avec autant de dignité que Jim. Ne pas, on peut dire, ne pas étouffer son chagrin, mais bien au contraire, se donner la permission de pleurer la perte d'un être cher, c'est peut-être là la clé. Oui, voyez-vous, le seul chemin, c'est de pouvoir donner libre cours à ses sentiments. Le deuil est quelque chose que l'on ne peut éviter et pourtant, trop souvent, nous cherchons à nous y dérober et à retourner le plus vite possible à la normale. Nous espérons que nous pourrons tourner la page après quelques semaines peut-être, mais il en est souvent rien. Certes, la vie n'est jamais la même après la mort d'un conjoint, et j'en sais quelque chose. Ma femme qui est décédée il y a plus de 27 ans par négligence et erreur médicale. J'ai presque pété les plombs, comme on dit en français. Mais vivre son deuil et non le fruit peut mener à la véritable paix de Jésus. Dans bien des cas, le deuil doit être vécu seul. C'est derrière les portes closes, sans le soutien d'une famille ou d'un ami proche, que se vivent parfois les plus profondes tristesses. Par contre, Dieu, lui, il est toujours là. Voyez-vous, il n'y aura pas d'apaisement véritable si l'on ne prend pas le temps de vivre son deuil. Il nous faut donc rechercher le silence du cœur et demander à Dieu de nous aider. N'imaginez pas que ce temps soit nécessairement morose. Il peut même être rédempteur. Lorsque nous prenons conscience de tout cela, eh bien notre deuil peut aussi être un hommage aux défunts. Voici par exemple le témoignage d'une chrétienne. Elle dit « J'ai vécu cela avec mes parents, Heinrich et Anne-Marie. Ma mère avait une bien meilleure santé que mon père, mais il lui survécut néanmoins 2 ans. Au cours de leurs 46 années de mariage, ils avaient vécu ensemble bien des moments intenses de foi et se vouaient l'un l'autre un très profond amour. Lorsque la mort lui arracha son épouse, mon père en eut le cœur brisé. Il ne savait absolument pas comment continuer sans elle. Il a dû traverser bien des moments de profonde solitude. Et moi, son seul fils, je ne l'ai pas compris à l'époque. Oui, mon père aimait beaucoup les paroles de Mère Teresa quand elle a dit « Il nous faut trouver Dieu et ce n'est pas dans le bruit et dans l'agitation qu'on le trouve le mieux. » En effet, Dieu, il est l'ami du silence. Voyez par exemple comme dans la nature, les arbres, les fleurs et l'herbe, tout pousse en silence. Voyez comme les étoiles, la lune et le soleil se déplacent en silence. Nous avons besoin du silence pour toucher les âmes. Ses paroles l'ont aidé à vivre son deuil. Après la mort de ma mère, désirant ardemment trouver Dieu et être plus proche de lui, il a passé de longues heures dans le silence et la prière. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec lui pendant ces moments donnés par Dieu, car j'étais beaucoup et très occupé. Mais nous avons pu, ensemble, lire les lettres et le journal intime que ma mère avait écrit lorsque elle était encore jeune. Sa vie s'est révélée à nous. Nos liens familiaux s'en sont trouvés resserrés. Car lire ensemble des écrits du défunt, quand ils existent, partager ainsi ce que fut son existence, peut être une grande aide pour une famille endeuillée. Adolescent, mon père s'intéressait déjà aux auteurs mystiques du Moyen-Âge. Tout au long de la vie de mon père, le silence et la prière ont tenu une place très importante. Dans sa vieillesse, ils ont même constitué l'essentiel de sa vie. C'est peut-être pourquoi il était tant aimé et pourquoi même des gens qu'il connaissait à peine se confiaient pourtant à lui. Dans la prière et le silence, mon père puisait la force d'affronter les combats de la fin de vie. Cette expérience lui permettait d'aider les autres. Même lorsque nous vivons un deuil, nous pouvons être pour les autres une source de force et d'encouragement. Dorothée, une grand-mère pleine de vie, a découvert combien cela pouvait être difficile, mais très gratifiant. Voici, chers amis, un autre témoignage. Le jour où un spécialiste nous a annoncé que Robert, mon mari, avait une tumeur inopérable au cerveau, j'ai eu du mal à réaliser que ses jours étaient comptés, lui si grand, si fort, et qui par passion pour les fleurs et les jardins avait si souvent manié la bêche et planté beaucoup de plantes et d'arbres fruitiers. Qui plus est, le diagnostic était tombé le jour du 46e anniversaire de notre engagement l'un envers l'autre. Les fleurs qui ont été apportées par nos enfants ce jour-là ne parvenaient vraiment pas à nous consoler. Robert, lui, il a dit sobrement « Je peux me résigner simplement, et ceci, ou bien choisir d'y adhérer pleinement et m'incliner devant le Seigneur. » Alors il a essuyé quelques larmes de son visage et il s'est tourné vers moi. Il a dit « Ne sois pas triste, ma chérie. À partir d'aujourd'hui, chaque jour qu'il me reste à vivre sera une célébration de la vie et nous partagerons notre joie avec tous. » Cette acceptation totale de l'épreuve m'a vraiment apaisé. J'ai pu laisser un peu de côté mes inquiétudes concernant l'avenir. À mesure que les jours passaient, j'ai réalisé que Robert n'était pas seulement mon mari, mais qu'il me fallait en quelque sorte le partager maintenant. Il fallait ouvrir notre porte à des amis et à des voisins. Notre maison elle se remplissait de visiteurs qui apportaient des souvenirs, mais aussi des larmes. Et chaque fois que me venait à l'esprit l'horreur de la tumeur qui grossissait vraiment dans le cerveau de Robert, mon mari, il m'a fallu chasser cette pensée et choisir de relever avec lui le défi de célébrer la vie. Robert restait cependant réaliste et peu à peu, il se dépossédait de tout ce qui lui était cher, tels que les vergers, les plantes, les citronniers, d'orangers et de vignes, même son camion préféré. Je n'ai entendu de paroles tristes de sa bouche qu'une seule fois, quand il a dit « Oh, comme c'est long de mourir !» Au bout de 2 mois et demi est venu le moment de la séparation. Et malgré nos larmes, nous savions que c'était une victoire et que Robert avait accompli ce qu'il devait faire de sa vie. J'étais désormais devenu veuve. Les jours et les mois qui ont suivi la mort de Robert, tout l'amour dont je fus entouré m'a beaucoup aidé, même si l'absence se faisait douloureusement sentir. La première fois où il a plu très fort, je me suis précipité pour aller chercher l'imperméable de Robert et je me suis soudain souvenu que son corps reposait en terre. La vue de son fauteuil, lorsque je rentrais le soir à la maison, cela me faisait très mal. Tant de petites choses, une chanson, le souvenir d'un lieu où nous avions vécu ensemble, la splendeur du ciel étoilé que nous contemplions souvent, cela me déchirait le cœur et entravait par moments ma respiration. J'essayais de ne pas pleurer afin de ne pas attrister mon entourage, mais j'ai réalisé plus tard que c'était quand même une erreur et qu'il valait mieux laisser couler les larmes. Je m'efforçais d'être courageuse, mais je ne l'étais pas du tout. Avant Robert, je n'avais jamais vécu la perte d'un être cher. Ma mère m'avait dit, des années auparavant, qu'après la mort de mon père, absolument personne ne lui parlait jamais de son mari, et cela lui avait donné l'impression qu'il n'avait même jamais existé. Comme elle avait désiré tellement que quelqu'un ne prononce ne serait que son nom, je n'avais pas réalisé le besoin que j'avais moi-même de ce genre de réconfort tout simple. Robert et moi avions travaillé pendant des années dans la même entreprise. Mais à présent, j'avais l'impression de n'avoir plus aucun lien avec mes collègues. Robert avait été une présence si importante dans ma vie personnelle, comme au travail. Cela peut paraître peut-être étrange, mais j'avais l'impression de n'être que l'ombre de moi-même. Je voulais trouver quel pouvait désormais être mon rôle dans la vie. En parlant avec mon pasteur, j'ai commencé à regarder en face le fait que lorsque quelqu'un meurt, ceux qui laissent sont abandonnés à leur chagrin. J'ai rencontré d'autres veuves et veufs qui souffraient tout, absolument tous comme moi, et qui avaient su reconstruire une nouvelle vie en tissant de nouveaux liens et de nouvelles relations. De même que j'avais eu à partager Robert lorsqu'il était en train de mourir, il me fallait à présent partager de moi-même, de mon temps, de mon énergie et ne pas vivre mon deuil toute seule. Il m'a fallu 3 années pour arriver pleinement à réaliser et à me tranquilliser en quelque sorte. Le résultat fut une paix intérieure toute nouvelle et un cœur plein de gratitude pour les années que Robert et moi avions partagées. Et je me suis rendu compte que l'amour ne s'éteint jamais, mais qu'il jaillit de l'éternité jusque dans notre cœur ici-bas. Ma grand-mère, nous l'appelions Oma, illustre elle aussi magnifiquement comment le deuil et la séparation ne mènent pas forcément au désespoir et à la solitude. Oma est née dans une famille aristocratique de Riga en Lettonie. Ses parents, professeurs d'université, étaient également bien connus pour leur engagement dans la vie municipale. Alors qu'elle avait une 20aine d'années, elle se convertit à Jésus-Christ et elle fut baptisée. Plus tard, elle épousa mon grand-père. En 1920, ils fondèrent dans la campagne allemande une petite communauté chrétienne qui mettait en pratique l'enseignement de Jésus tel qu'il apparaît dans le Sermon sur la montagne, Saint Matthieu, chapitre 5, verset 7. Ils furent en conséquence de virulents opposants, bien entendu, à la montée au pouvoir de Hitler. En 1935, mon grand-père mourut brutalement à la suite de l'amputation d'une jambe qui s'était infectée après une vilaine fracture. 2 ans plus tard, Oma a dû fuir l'Allemagne avec mes parents et d'autres amis. Ils finirent par prendre un bateau pour l'Amérique du Sud, naviguant dans des eaux infestées de sous-marins en plein milieu de la guerre. Oma fut veuve pendant 45 ans. Elle a dû se sentir souvent bien seule, sans le mari qu'elle avait tant aimé. Jamais cependant, elle ne s'est apitoyée sur elle-même, se tournant toujours vers les autres. Les enfants l'adoraient. Elle les attirait comme un aimant. Outre sa passion pour le piano et le chant, elle aimait particulièrement les chants folkloriques et les chants religieux. Elle avait un don pour l'écriture et entretenait une correspondance abondante avec des personnes du monde entier. Oma aimait la vie. Elle aimait tout particulièrement célébrer des fêtes telles que Noël, Pâques et son anniversaire, fêtes auxquelles les invités venaient très nombreux. Dans les dernières années de sa vie, j'ai eu avec elle des conversations qui m'ont profondément marqué sur la foi, sur le mariage, les enfants, sur la vie en communauté. Elle gardait en mémoire les idées de mon grand-père, Eberhard Arnold, qui avait été un célèbre théologien. Même à mesure qu'elle vieillissait et s'affaiblissait, Oma n'a jamais cessé de s'intéresser à tous les nombreux visiteurs qui venaient la voir. Et jusqu'à sa mort, à l'âge de 95 ans, elle a rayonné la joie et l'enthousiasme. Après sa mort, elle n'a pas manqué seulement à sa famille, mais à tous ceux qu'elle avait touchés tout au long de sa vie. À mes yeux, l'héritage spirituel qu'elle a laissé reflète les mots du livre de l'Apocalypse qui sont inscrits sur sa tombe et sur la tombe de son mari. Voici les paroles. « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14, verset 13. Tous n'ont pas eu une vie tissée de relations aussi riches que celle de ma grand-mère. Mais pour tous, quand vient le moment de la séparation, il faut un temps de deuil. Toute âme qui retourne à son Créateur doit être pleurée. Il y a un lien direct entre la façon dont nous vivons notre deuil et la paix et le sens que nous donnons à notre vieillesse. Après la mort d'un être aimé, c'est de cette paix-là et de ce sens que dépendra la rapidité avec laquelle nous passerons de l'angoisse et de la solitude à une joie toute nouvelle. La dépression, la nostalgie risquent de nous empêcher d'aller de l'avant comme mon père et ma grand-mère. En attendant, nous pouvons être certains d'une chose, que ceux qui nous ont précédés gardent un lien avec nous ici-bas. Comme l'a écrit mon grand-père dans sa dernière lettre à Oma, « Je prierai pour toi devant Dieu et pour l'éternité. » Une telle pensée, même si elle est trop grande pour être totalement comprise, sera néanmoins d'un grand réconfort à toute personne qui a de la foi. Chers amis, ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait. Non, pas du tout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Oui, il n'y a plus que l'amour. Chers amis, un médecin fut appelé chez un malade. Ce dernier lui parla de sa peur de mourir et lui demanda ce qu'il y avait de l'autre côté. Le médecin, entendant un bruit derrière la porte de la chambre, lui fit cette réponse. Écoutez bien. Est-ce que vous avez entendu? Eh bien, c'est mon chien. Je l'ai laissé en bas de l'escalier. Mais il s'est impatienté et il a entendu ma voix. Alors il est monté. Il n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière cette porte. Mais il sait une chose. Il sait que je suis là. N'est-ce pas pareil pour vous? Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte, mais vous savez que votre maître Jésus-Christ est là. Cette histoire racontée par A. Hunter nous montre avec quelle confiance nous devrions aborder la fin de notre vie. Nous avons peur de vieillir et nous avons aussi peur de mourir. Mais jamais nous ne pourrons vaincre totalement ces peurs tant que nous ne prendrons pas conscience que nous ne sommes pas faits pour ce monde, mais pour quelque chose de beaucoup plus grand. Si nous voyons la mort comme un passage vers un autre monde, comme la continuation de notre expérience humaine et non pas comme sa fin, alors, nous pourrons mieux y faire face. Comme le dit du reste l'apôtre Paul, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. Chers amis, si nous croyons réellement cela, il y a nul besoin de s'inquiéter de ce qu'il y a derrière la porte, puisque nous savons qui s'y trouve, c'est-à-dire notre Maître Jésus. Et même lorsque nous prenons vraiment conscience que notre vie ici-bas pourrait s'achever d'un jour à l'autre, nous pouvons être certains qu'il y a une vie après la mort. Le propriétaire d'un restaurant croit que la mort est la fin de tout. Il y a des milliers de gens qui pensent pareil. Or, ils passent à côté de la grandeur et de la puissance et de l'amour de Dieu. Voyez-vous, nombreux sont ceux qui pensent comme lui. Pourtant, l'idée d'une vie après la mort n'appartient pas seulement au christianisme. On trouve cette idée très forte dans le judaïsme, dans l'islam, le bouddhisme et même l'hindouisme. Jésus parle de demeures qui nous attendent dans la maison de son Père. Et c'est la question que aborde le pasteur George MacDonald à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il se demande « Qu'importe que nous vivions dans cette demeure ou dans une autre, car celui qui nous envoie ici-bas, il est aussi celui qui nous en rappelle. J'aime vivre passionnément, mais peu m'importe où, la demeure qui nous a permis d'avoir ici-bas est pas trop mal, de sorte que nous ne pouvons lui faire confiance, nous pouvons vraiment lui faire confiance pour celle qui nous attend. Voyez-vous, la vie, elle est courte, oh et combien! Elle est comme une fleur qui se fane le soir. Le prophète Ésaïe écrit que toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ésaïe 40, versets 6 et 7. Et l'apôtre Jacques demande « Qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Saint Jacques, chapitre 4, verset 14. Il serait donc insensé de croire que nous puissions changer cette réalité. Et tout ceci serait déprimant si nous ne le voyons pas comme étant une partie intégrante du magnifique plan de Dieu. Comme le laissent deviner les Saintes Écritures, l'éternité n'est pas la prolongation sans fin de la vie telle que nous la connaissons. Ce que nous connaissons ici-bas aura bientôt une fin. Or, l'éternité est une vie toute nouvelle, une vie libérée des puissances destructrices de la mort, une vie de plénitude où l'amour règne en maître suprême. La promesse de la vie éternelle ne concerne pas tant la durée que la nature même de cette vie, une vie de paix, de fraternité et d'abondance. Et cette vie, elle peut commencer déjà, dès ici-bas. Au plus profond de nous-mêmes, chacun aspire à ce que Dieu nous a promis, c'est-à-dire une vie nouvelle, une demeure nouvelle, un corps qui ne souffrira plus d'aucun manque. La Bible dit, « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. » 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2. Dieu veut accueillir chacun d'entre nous dans son royaume. Mais il nous faut commencer à y travailler dès maintenant, oui, pendant notre vie terrestre. Ce que nous faisons ici et maintenant, cela a des répercussions bien au-delà de cet ici et maintenant. Nous perdons tellement de temps ici-bas à des plaisirs fugaces et nous oublions ce qui est vraiment important. Les buts que nous poursuivons dans la vie ne doivent pas être les nourritures qui périssent, mais doivent être celles qui demeurent pour la vie éternelle, selon Saint Jean chapitre 6, verset 27. L'on pourrait appeler un tel état d'esprit ou mode de vie de vivre devant l'éternité, tout en vivant une existence physique ici-bas. Eh bien, notre cœur et notre esprit se préparent déjà pour l'au-delà. Tecumseh, un chef indien, un drôle de nom, n'est-ce pas? Tecumseh. Ce chef indien exprime magnifiquement cela dans un texte qui lui a été attribué. Voici ce qu'il dit. Vis ta vie de sorte que jamais, jamais la peur de la mort ne puisse pénétrer ton cœur. Aime ta vie, perfectionne ta vie, rends belle toutes les choses de ta vie. Cherche à rendre ta vie longue et mets-la au service des tiens. Lorsque dans un lieu isolé, tu croises un ami ou même un étranger, salue-le toujours d'un geste ou d'un seul mot. Respecte tout le monde et ne t'aplatis devant personne, même devant, et je plaisante, devant Donald Trump. Quand tu te lèves le matin, alors rends grâce pour la nourriture et pour la joie de vivre. Si tu ne vois aucune raison de rendre grâce, n'en cherche la cause que en toi. Quand vient l'heure de mourir, ne sois pas comme ceux dont le cœur est rempli de la peur de la mort et qui, lorsque leur heure arrive, pleurent et prient pour avoir un peu plus de temps afin de vivre une vie différente, car ils ont compris qu'ils ont mal vécu et qu'ils ont fait le mal. Chante donc ton chant de mort et meurs comme un héros qui s'en retourne chez lui. Oui, chers amis, vivre devant l'éternité, c'est accumuler les trésors, non pas sur la terre, mais dans le ciel, selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20. Vivre devant l'éternité, c'est savoir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint Marc, chapitre 4, verset 4. C'est aussi savoir que Jésus nous donne l'eau vive. Jésus dit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Johannes, Saint Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Chers amis, à présent que nous sommes au crépuscule de notre vie, nous nous sommes souvent demandé ce qui était vraiment important. Nos réflexions nous ont toujours conduit à la même réponse, c'est de nous préparer de notre mieux au moment où Dieu nous rappellera et d'aider les autres lorsqu'ils doivent affronter leur mort, d'être à leur chevet pour les aider, oui, les aider à passer de ce monde à l'autre. Quel que soit notre âge, nous ferions bien de tous nous poser cette question. La jeunesse est l'une des plus belles périodes de la vie, mais ces joies ne sont vraiment complètes que lorsque les jeunes commencent à se poser la question sur l'éternité. Il en va de même pour la vieillesse. Elle peut être marquée par la souffrance, la solitude et la dépression si nous n'avons pas conscience que plutôt que de notre moralité, c'est-à-dire de notre mortalité, c'est de notre immortalité que nous nous rapprochons. Je répète, si nous n'avons pas conscience que plutôt que de notre mortalité, c'est de notre immortalité que nous nous approchons à grands pas. Afin de vivre pour l'éternité, eh bien nous avons besoin d'avoir la foi. Et cette foi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Car sans la foi, nous avons peur de la fin de notre vie terrestre. Mais avec la foi, cette peur disparaît totalement. Sans la foi, la mort est absence et tristesse. Mais avec la foi, elle est joyeuse, voire même triomphante. Ce n'est que en mourant que la vie nouvelle peut enfin commencer. L'Évangile selon Saint Jean nous rappelle que si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Donc, Dieu veut que chacun de nous grandisse, que chacun de nous fleurisse et porte du fruit dans l'éternité. Comme nous nous préparons à l'éternité, nous sommes confrontés à la question suivante. Que va-t-il m'arriver à ma mort? Mais nous ne devons pas avoir peur, parce qu'il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, cette foi-là m'a libéré, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, versets 1 et 2. Comme l'écrit du reste si magnifiquement l'auteur hébreu du livre de l'Ecclésiaste, et j'ai pris cela dans ma Bible allemande. Voici ce qu'elle dit. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3, versets 2 à 8. Et l'auteur de poursuivre ainsi. J'ai vu quelle occupation de Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Mais si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 et 11. Chers amis, notre vie serait vraiment bien petite si elle n'était faite que de ce que les sens peuvent saisir, de ce que l'on touche et de ce que l'on voit. Mais l'éternité ne se mesure pas. Si nous vivons pour l'éternité, nous verrons qu'elle est bien plus réelle que le monde visible. Comme l'écrit du reste l'apôtre Paul, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu éclairée, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Voyez-vous, Dieu a créé chacun d'entre nous pour ce monde ici-bas, mais il nous a aussi créés pour l'éternité et il a pour chacun de nous un plan. Si nous ne vivons que pour notre vie terrestre, il nous faudra en subir les conséquences. Mais si nous sommes fidèles à Dieu, il nous est promis que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 43. Et l'apôtre Paul écrit que si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, alors vous vivrez. Romains 8, verset 13. Tel ne devrait pas être notre but, évidemment. Bien sûr, il est vrai, nous commettrons des erreurs sur notre chemin. Mais cela n'empêche pas Dieu de se servir de nous. Nous sommes imparfaits ici-bas, on le sait, mais nous pouvons être rendus parfaits dans l'éternité. Voici comment se termine du reste le poème de Robert Browning. Il dit : Mon Dieu, fais toutes choses selon ta volonté. Corrige mes défauts secrets, ce qui me détruit et me pousse à l'échec.
que mon temps soit entre tes mains. Remplis la coupe comme tu le veux, que la vieillesse soit le terme de la jeunesse et que la mort en soit l'accomplissement. Oui, en effet, vivre devant l'éternité, cela nous donne l'occasion de vaincre la mort dès maintenant, même avant notre mort physique. Alors une telle perspective, elle peut nous aider à comprendre comment Dieu œuvre en chacun de nous, en chacun de nos vies. Elle peut aussi nous donner la force de suivre sa voie par le service, par l'amour et le pardon, afin que nous puissions nous préparer à notre mort, puis à la vie éternelle. Quand Dieu nous a mis sur notre route, il avait un plan qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est lorsque nous remplissons notre mission que nous sera accordée la vie éternelle. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Saint Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Chers amis, avant de terminer par la prière, je voudrais vous transmettre quelque chose que j'ai reçu dans le cœur de vous donner, pour vous donner pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre édification. Écoutez bien. Mais oui, demandez et osez toujours demander. Lisez Saint-Luc chapitre 18, versets 1 à 8. La confiance, quand il le faut, elle sait attendre. Mais il arrive aussi qu'elle n'admet aucun délai. Bien assuré de demander ce qui doit l'être, ce qui inspire Dieu lui-même, elle dit alors avec l'obstination de l'enfant, « Tout de suite, ne me fais pas attendre plus longtemps, ô mon Dieu !» Mais vous n'êtes plus des serviteurs, mais maintenant vous êtes des amis. Saint Jean, chapitre 15, verset 15. Or un ami peut tout exiger de son ami. Il sait que tout ce qui est à son ami, si du moins il s'agit d'un ami véritable, et aussi à lui, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il vivra aux dépens de son ami, pas du tout, mais seulement qu'il aura recours à tout ce que son ami peut lui donner quand ses ressources personnelles sont épuisées. Un oui, du temps, même tout ce qu'il possède. L'amitié, oui, l'amitié vraie, cette amitié a le droit de tout s'approprier. Et quand on sert Dieu, on trouve la liberté parfaite. Héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ, selon Romains 8, verset 17. Nous partageons, vous et lui, l'héritage du Père. Vos droits à cet héritage pour en faire l'usage qui convient sont les mêmes que pour Jésus-Christ. Lisez Saint Jean, chapitre 17, verset 10, verset 16, verset 24 et le verset 27. Et, en plus, 1 Corinthiens 3, verset 23. Faites donc usage de vos droits. Un mendiant supplie. Or, un fils, une fille, entre en possession de ce qui lui revient de droit. Comment donc s'étonner que le Seigneur laisse ses enfants à la porte jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de leur aberration? Quand ils sont là, à supplier et attendre, alors qu'ils n'ont qu'à entrer dans ce qui est leur maison et à se servir. Mais tous ne peuvent pas, dès maintenant, se comporter de la sorte, car il faut d'abord que s'éveille en eux la claire conscience filiale. Et maintenant, chers amis, prions ensemble. Seigneur, bienheureux sont ceux qui te cherchent et qui placent en toi toute leur espérance. Nous voici prosternés au pied de ton trône, élevant vers toi nos mains suppliantes. Mais nos cœurs ne sauront te chercher et s'élever aussi jusqu'à toi que si tu prends pitié de nous et si tu nous accordes les secours de ton Saint-Esprit. C'est à ton inépuisable bonté que nous devons la vie, que nous te devons la santé, les bienfaits sans nombre que tu répands sur notre existence. Donne-nous donc des actions pour te bénir et te rendre grâce. Donne-nous le profond sentiment de l'entière dépendance où nous sommes de toi, afin que nous implorions ton assistance à chaque heure et à chaque instant. Ô que ta protection nous préserve des tentations, des mauvaises pensées, du découragement, de l'impatience, que ta puissance, agissant dans nos cœurs, les régénère, les renouvelle, nous rend humbles, nous rend patients, charitables les uns envers les autres et pleins de dispositions pures et paisibles qui font reconnaître la véritable et le véritable chrétien. Que Christ nous éclaire, nous relève d'entre les morts, qu'il vive en nous par son esprit et que nous trouvions en cet adorable Sauveur le pardon et le salut éternel de nos âmes, que nous trouvons notre paix en lui et notre sanctification. Nous terminons notre prière en t'implorant pour nos familles et nos amis, pour les malheureux, les malades et les affligés. Ô Seigneur notre Dieu, qu'à toi soit adoration et louange dans toute l'éternité. Amen. Amen. Et chers amis, nous terminons donc cette série aujourd'hui, mais le Seigneur a mis dans mon cœur de commencer une nouvelle série qui sera pour compléter une série déjà donnée dans le passé concernant la démonologie. Car partout fleurissent des magasins, des petites boutiques arrière avec tout ce qui concerne le satanisme. Et donc, j'ai dans le cœur de vous donner encore quelques compléments et quelques témoignages, quelques enseignements utiles, mais tout cela pas pour vous effrayer, pas du tout, mais pour vous rendre conscient des réalités de cette époque, de la fin, de la grâce. Et c'est important de connaître tout cela. Encore une fois, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour aider. Que le Seigneur vous bénisse, et vous savez qu'il vous aime, et je vous aime tous, vraiment, de tout mon cœur, et je vous embrasse avec toute mon affection. Soyez donc bénis. À demain, Dieu voulant, pour cette toute nouvelle série, complément à déjà une grande série sur ce thème. Au revoir, mes très chers amis.